Voici une question dont la réponse pourra changer l'attitude de plusieurs croyants. Comment devons-nous réagir et que devons-nous faire quand nous traversons le désert de l'épreuve? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, si vous désirez faire la volonté de Dieu de tout votre cœur, si vous désirez recevoir toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour vous, eh bien, cette émission est pour vous. Voici les questions que nous allons poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Dieu s'intéresse-t-il aux petits détails de notre vie? Que faut-il faire pour que notre nom soit inscrit dans le livre de vie? Est-ce que Dieu connaît toutes nos œuvres, même les petites? Pourquoi la vie est-elle si ennuyante pour certains croyants? Et pourquoi passe-t-elle si vite pour d'autres? Est-ce vrai que les gens de mauvaise vie sont souvent plus prompts à placer leur foi en Jésus que les gens qui mènent une bonne vie? Comment se fait-il que ce ne sont pas tous les croyants qui demeurent jeunes de cœur? Comment le croyant doit-il agir quand il traverse le désert de l'épreuve dans sa vie? Est-ce que les récompenses des croyants dépendent de la grandeur de leurs œuvres? Avez-vous hâte, comme moi, d'entendre les réponses que Dieu va mettre dans la bouche du pasteur Réjean Joly pour nous aujourd'hui? Je suis certaine que oui. Demandons à Dieu qu'il fasse pénétrer sa parole profondément dans nos cœurs, qu'il nous aide à l'appliquer dans notre vie quotidienne. Prions. Oui, Seigneur, ta parole est merveilleuse. On ne veut pas être des écouteurs oublieux, mais on désire, Seigneur, que tu fasses pénétrer ta parole dans nos cœurs, bien profondément. Qu'elle reste là, ancrée en nous, pour qu'on puisse la mettre en pratique. Et aide-nous à l'appliquer dans nos vies. On a besoin de ta force, de ta toute-puissance. Et merci, Seigneur, parce que c'est grâce à Jésus qu'on peut venir te prier. Amen. À toi, Réjean.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Josué a défait les 5 rois de la région pour ensuite entreprendre la conquête de la région du Nord. Nous avons vu que Dieu a donné au peuple l'occasion de se repentir et que finalement, il a permis qu'ils s'endurcissent pour les détruire. Ce jugement de peuple entier est une image du jugement dernier. En effet, tous, sans exception, seront jugés par Dieu. Nous avons vu que Dieu encourage les siens. En effet, il a encouragé Josué avant qu'il s'avance contre les rois du Nord qui étaient nombreux. De plus, c'est Dieu qui a remporté les victoires pour Israël. Qu'il ait fait des miracles ou non, Dieu marchait toujours avec son peuple. Le texte biblique souligne davantage l'obéissance de Josué que ses aptitudes de chef militaire. Aujourd'hui, nous allons étudier les chapitres 12 à 14. Cela semble beaucoup, mais ce ne sera pas le cas. Le chapitre 12 est une liste de tous les rois défaits par Israël. Nous commenterons brièvement ce chapitre sans le lire. Ensuite, nous nous arrêterons sur quelques versets du chapitre 13, car nous pouvons en tirer quelques leçons spirituelles. Cependant, ce chapitre est surtout une liste des territoires qu'ont reçus en partage les tribus d'Israël. Encore, il y a peu d'applications spirituelles à faire avec cette liste. Cependant, si vous n'avez pas encore lu ces chapitres, vous pouvez le faire plus tard. Finalement, nous nous arrêterons sur l'épisode au cours de laquelle Caleb reçoit en partage le mont Hébron. La conquête du pays dura 5 ans. Nous verrons plus loin que Caleb avait 40 ans lorsqu'il fut sélectionné pour faire partie des 12 espions et il en avait 85 lorsqu'il a reçu le mont Hébron en héritage. Il avait donc environ 78 à 80 ans au début de la conquête qui a duré de 5 à 7 ans. Le temps exact d'errance dans le désert fut 38 ans et il a fallu probablement un certain temps pour prendre les territoires à l'est du Jourdain. Dieu s'intéresse aux petits détails de notre vie et à notre quotidien. Lire une liste de noms n'est pas la chose la plus intéressante au monde. C'est comme lire le bottin téléphonique. Cependant, le fait que le Dieu de cet univers se soit arrêté sur ces détails est impressionnant. Nous penserions que Dieu ne s'occupe que de grands dossiers qui méritent son attention, des dossiers dont on parle en termes grandioses. Chers amis, Dieu se préoccupe des petits détails de notre vie et de notre quotidien. Oui, chers amis, les petits éléments de notre entourage intéressent Dieu. Il ne faut pas hésiter à présenter les petits détails de notre vie à Dieu. En effet, il y prête attention et il est disposé à écouter nos prières à ce sujet. N'hésitez jamais à venir en prière à Dieu pour quoi que ce soit. Nous avons devant nous un chapitre qui nomme des rois dont nous ne savons rien. Cependant, Dieu sait tout d'eux et il a même noté leur nom. Dieu tient deux registres, chers amis. Le livre de vie de l'agneau est un registre de nos œuvres. Notre nom est écrit au moins dans le registre des œuvres, mais il est écrit dans le livre de vie seulement si nous avons mis notre entière confiance en Jésus-Christ pour notre salut. Ce n'est pas par vos œuvres et vos efforts que votre nom est inscrit dans ce registre. Il y est inscrit si vous avez la vie éternelle, si vous avez la foi en Jésus-Christ. Dieu connaît toutes nos œuvres. Oui, lors du jugement, le registre qui contient la liste de nos œuvres sera ouvert. De nombreux chrétiens seront très embarrassés lorsqu'ils verront que la seule chose qu'ils n'ont jamais donnée à Dieu est un verre d'eau qui ne leur a rien coûté. Des missionnaires nous écrivent parfois des lettres et nous donnent des nouvelles au sujet d'endroits, de gens et d'églises dont nous n'avons jamais entendu parler. Cependant, Dieu connaît chaque petit détail du travail de ses missionnaires. Il sait tout de ce que nous faisons. Le moindre petit geste, tout est dans son registre. Nous passons maintenant à quelques réflexions sur le chapitre 13. Nous entrons dans la deuxième moitié du livre de Josué. Nous retrouvons un Josué âgé qui a environ 100 ans. Il ne pourra plus gouverner Israël bien longtemps. Il fut un chef militaire, mais les combats sont terminés. Il semble que le temps est passé vite depuis que le peuple est entré dans la terre promise. Le temps a semblé plus long dans le désert, mais maintenant la nation d'Israël est dans un pays où coule le lait et le miel et elle ne voit plus le temps passer. Mes amis, si certains d'entre vous se consacraient à Dieu et vivaient pour sa gloire, vous trouveriez la vie moins ennuyeuse. Le temps semblerait s'écouler très vite. Demandez à ceux et celles qui sont au service de Dieu, dans l'œuvre, combien vite ils trouvent que le temps passe. Chers amis, débutons notre lecture, Josué, chapitre 13, verset 1er. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. » Il est impossible de s'ennuyer dans l'œuvre du Seigneur. Tout semble aller bien pour Israël. Le peuple a pénétré dans le pays par une région centrale. Il a conquis la région du sud pour ensuite faire face au roi du nord. Cependant, le Seigneur a rappelé à Josué qu'il restait encore beaucoup de territoire à prendre. Lorsque nous aurons travaillé d'arrache-pied à l'œuvre de Dieu, on pourra dire la même chose au sujet de notre travail. Tout serviteur de Dieu n'accomplit jamais tout le travail qu'il aurait désiré. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 12, l'apôtre Paul dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. » Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Dieu avait dit à Josué que la nation prendrait possession de tout pays sur lequel elle poserait la plante des pieds. Cependant, le peuple n'a pas marché sur tout le territoire promis. Nous non plus. Nous ne posséderons jamais toutes nos bénédictions spirituelles tant que nous serons sur terre. J'ai rencontré des personnes qui pensaient l'avoir fait. Elles croyaient n'avoir plus rien à apprendre ou à faire. Elles sont satisfaites de leur vie et ne désirent pas aller plus loin. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, nous dit Philippiens chapitre 3, verset 14. La carrière militaire de Josué est maintenant terminée. Il n'est plus chef d'armée. Sa nouvelle tâche consiste à partager entre les tribus d'Israël et le territoire déjà conquis. Il doit aussi s'assurer que la promesse que Moïse a faite aux deux tribus soit respectée. Versets 7 et 8. Et divise maintenant ce pays par portions entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage, que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué n'avait pas seulement reçu la mission de prendre possession du pays, mais il avait aussi reçu le mandat de le partager entre les tribus. Il a partagé les territoires déjà conquis ainsi que ceux que le peuple devait prendre dans le futur. Verset 22. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, il avait aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Chers amis, avez-vous assisté à la fin d'un Balaam ou d'une Rahab? Notez la différence entre la prostituée Rahab et Balaam. Rahab était une femme méprisée, mais elle vit les œuvres de Dieu et plaça sa foi en lui. Ce fut une foi agissante qui lui fit sauver les espions envoyés par Josué. Rahab fut intégrée au peuple de Dieu et elle devint une ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. Balaam était un homme respecté. Le roi Balak envoya des émissaires vers lui avec un gros don en argent. Dieu parla lui-même à Balaam afin qu'il ne maudisse pas Israël. Cependant, Dieu fut obligé de le forcer à le faire. Il se servit d'un ange et de l'âne de Balaam. Même après cela, Balaam essaya d'entraîner Israël dans le péché. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Nombre chapitre 31, verset 16. Balaam fut détruit par Israël. Balaam préféra le gain à servir Dieu. Balaam ne craignit pas Dieu. Il ne s'est pas converti. Il périt lors de la conquête de la terre promise. Par contre, Rahab mit sa foi en Dieu et sa fin fut beaucoup plus heureuse. Sa vie fut épargnée et elle devint une ancêtre du roi David et du Seigneur Jésus-Christ. Les tribus qui devaient habiter du côté ouest du Jourdain reçurent leur territoire par tirage au sort. Cependant, Caleb obtient un privilège. La montagne de Hébron lui fut donné. Caleb, né esclave, était un des 12 espions, et avec Josué, il remit un rapport favorable à la conquête de la terre promise lorsque le peuple vint à Kadès-Barnéa la première fois. Selon Josué, chapitre 14, verset 11, Caleb avait conservé toute sa vigueur. Il avait la foi pour oublier le passé, la foi pour regarder la réalité et la foi pour faire face à l'avenir. Lisons Josué, chapitre 14, versets 1 et 2. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Les tribus de Ruben, Gad et une moitié de la tribu de Manassé demeurèrent à l'est du Jourdain. Ensuite, les autres tribus reçurent des territoires à l'ouest du Jourdain. Je les cite en ordre géographique en commençant par le sud. Siméon, Juda, Benjamin, Dan, Éphraïm, Manassé, Issachar, Zébulon, Nephtali, Aser et Dan. Ce n'est pas par erreur que Dan est nommé deux fois. Dan a reçu un territoire au sud, et plus tard, s'y trouvant à l'étroit, la tribu a conquis un autre territoire, cette fois au nord. Versets 5 à 11. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès-Barnéa? J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Caleb est maintenant âgé de 85 ans, et il a la même vigueur qu'à 40 ans lorsqu'il a exploré le pays avec les autres espions. Josué et Caleb sont les seuls hommes de la première génération à entrer dans la terre promise. Ces deux hommes ont remis le rapport de leur expédition d'exploration comme l'ont fait les 10 autres espions. Le but de l'expédition était de répondre à la question. Est-ce qu'Israël peut conquérir le territoire? Josué et Caleb croyaient la chose possible avec l'aide de Dieu. Les autres espions remarquèrent les géants qui habitaient le pays et voulaient retourner en Égypte. Ils voulaient retourner à l'esclavage, aux travaux forcés, au fouet des contremaîtres, aux chaînes et aux gémissements d'autrefois. Le Seigneur Jésus a dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Luc chapitre 9, verset 62. Dieu avait appelé Israël à venir dans la terre promise, et Caleb crut que la chose était possible. Qu'en est-il de votre espoir lorsque vous traversez le désert? Pendant les 40 ans d'errance dans le désert, lorsque quelqu'un commentait la chaleur torride de la journée devant Caleb, celui-ci devait répondre « Je ne l'ai pas remarqué. C'est vrai qu'il fait chaud, mais je pense à ces grappes que j'ai vues à Escol. Je pense à la ville d'Hébron. Abraham aimait cet endroit, et moi aussi je l'aime. C'est cette montagne que je désire habiter. » Lors du séjour dans le désert, Caleb avait un espoir que les autres de sa génération n'avaient pas. Ceci l'a gardé jeune de cœur. Les 40 ans dans le désert ont fait périr les autres, mais il est demeuré en santé. Les autres vieillissaient, mais il demeurait jeune. Les géants aperçus dans la terre promise firent trembler les autres qui se voyaient comme des sauterelles auprès d'eux. Mais Caleb voyait Dieu. Donc la crainte n'habitait pas dans son cœur. Dieu était plus puissant que les géants. Et vous, avez-vous ce Dieu tout-puissant qui fait que tout le reste autour de nous n'est que petit? Ou vous avez peut-être de grands problèmes? Qui est votre Dieu? Celui qui peut résoudre les problèmes, celui qui a la pleine toute-puissance. Jouissez-vous des bénédictions spirituelles que Dieu a pour vous aujourd'hui? Vous dites, « Je n'ai que des ennuis. » Je sais que les chrétiens ont beaucoup de difficultés au cours de leur vie. J'ai de la compassion pour eux. Nous éprouvons tous des difficultés, mais que devient votre espoir à travers celles-ci? Nous avons tous des raisons de nous plaindre, mais que devient votre espoir? Caleb a passé 40 ans dans le désert et il jouissait par anticipation des bénédictions spirituelles qui lui avaient été promises. Chers amis chrétiens, tu es en route vers le ciel, vers ta terre promise. Que rien ne vienne faire obstacle à ta marche chrétienne. Poursuivons notre lecture. Verset 12. « Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. » Dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, Abraham alla à Hébron, un nom qui veut dire « communion ». C'était un lieu de communion. Caleb, qui était en communion avec Dieu, voulait résider à Hébron. Et toi, quelle est la condition de ton cœur? Recherches-tu une pleine communion avec Dieu? Comme Créateur, comme Sauveur et Seigneur. Versets 13 et 14. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné. Et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui, oui, chers amis, le serviteur fidèle sera récompensé. La récompense ne sera pas fonction de la grandeur de l'œuvre accomplie, ni de notre popularité ou de notre réputation. La question posée sera « As-tu suivi fidèlement le Seigneur ?» La chose la plus importante à faire dans la vie, c'est de suivre les voies et la volonté de Dieu. Pourras-tu entendre la voix du Maître, du Seigneur Jésus, le Christ, te dire « Bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans la joie de ton maître. Accomplir la tâche fidèlement, voilà ce que Dieu demande et attend de chacun d'entre nous. » Caleb, un homme de Dieu, prit Hébron, habité par des géants. Il a voulu cette montagne et sa ville. Oh, puissions-nous travailler pour remporter le prix de la vocation céleste dans le Seigneur Jésus. Jésus a promis que celui qui combattra fidèlement selon les règles, les normes, Dieu exaucerait ses prières. Dieu répondrait, Dieu accorderait sa toute-puissance. Il donnerait à celui qui croit en lui le vouloir et le faire. Conditionnel? Si tu remplis la condition, Dieu promet, il est fidèle, il accomplira sa promesse. Il veut que tu vives pleinement de toutes ces bénédictions qui découlent du don gratuit qu'il t'offre présentement. La vie éternelle, la communion avec lui, une relation intime par son Fils le Seigneur Jésus-Christ. As-tu reçu ce don? Il te l'offre maintenant. Saisis-le par la foi et par le feu même. Tu seras un vainqueur comme Caleb et comme tous ces hommes et ces femmes ont pu remporter la victoire et le prix par la foi placée en Jésus-Christ seul, celui qui a tout accompli et pleinement accompli la volonté du Père. Chers amis, prochaine émission, Josué chapitre 15 à chapitre 18.
Oh, merci beaucoup, Régin. J'aurais le goût d'élaborer sur chaque enseignement qu'on a reçu aujourd'hui tellement ça m'a fait du bien. On a bien vu qu'il est impossible de s'ennuyer quand on est dans l'œuvre du Seigneur, quand on est obéissant et fidèle dans tout ce qu'il nous confie. On a vu aussi que le croyant conserve sa vigueur quand il a la foi pour oublier le passé, pour regarder la réalité et pour faire face à l'avenir. Quand Régent a mentionné que Caleb était encore jeune de cœur dans sa vieillesse, qu'il était en santé, ça m'a fait penser à deux hommes qui sont venus donner des conférences sur le réveil à notre église il y a quelque temps. Ce sont des jumeaux et ils ont maintenant 73 ans. Pendant les conférences, à un certain moment, ils nous ont dit qu'ils faisaient de telles conférences depuis plusieurs années déjà, plusieurs décennies même, et qu'ils n'avaient jamais eu besoin d'annuler une conférence pour cause de maladie. Vous auriez dû les voir tous les deux. Malgré leurs cheveux blancs, leur visage rayonnait de joie, je dirais même de jeunesse. Ils étaient comme Caleb, qui avait un espoir que les autres de sa génération n'avaient pas. Les 40 ans dans le désert ont fait périr les autres, mais Caleb est demeuré en santé. Les autres vieillissaient, mais ils demeuraient jeunes. Régent a mentionné les géants aussi, qui avaient fait peur aux 10 espions, mais pas à Josué et à Caleb. Tout ce que les 10 espions ont retenu était qu'il y avait des géants dans le pays à conquérir et qu'ils préféraient retourner à l'esclavage, aux travaux forcés, aux fouets des contremaîtres, aux chaînes et aux gémissements d'autrefois. Mes amis, je pense qu'on a tous des géants dans notre vie, c'est-à-dire des épreuves qui nous semblent insurmontables. Voilà l'occasion de s'en remettre totalement à Dieu, qui est bien plus grand et beaucoup plus puissant que ces géants. Il m'arrive parfois de frôler le découragement total, mais dans ces moments, quel rafraîchissement pour moi d'aller puiser l'eau de la parole de Dieu pour me rafraîchir, pour me désaltérer dans mon désert. Dieu me rappelle ses promesses dans sa parole. Il me redonne du courage. Il me fait du bien. Il me console. Mon ami, as-tu ouvert ta Bible aujourd'hui? Elle est remplie de belles promesses pour toi. Et si tu traverses une grosse épreuve en ce moment, j'aimerais t'encourager à lire la première épître de Pierre au premier chapitre des versets 3 à 9. Je ne les lirai pas, le temps me manquerait. Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu as l'assurance de la vie éternelle, ce passage de l'Écriture va sûrement t'encourager. Il parle de l'espérance qui est ancrée dans l'âme du croyant. Il dit que même dans l'épreuve, notre espérance, c'est Jésus. C'est le fait de savoir que bientôt, si on est des enfants de Dieu, on va être au ciel avec Dieu pour l'éternité.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer. Et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épaté. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.